Chers auditeurs, vous allez découvrir aujourd'hui la lyrique des Trouvères. Au XIIIe siècle, au nord de la France, où se construisent les cathédrales gothiques, les Trouvères, ou Trouveurs plutôt, développent l'art des troubadours en langue d'œil. Ils font naître la musique instrumentale et, avec leurs motets en langue vernaculaire, développent une polyphonie jusqu'alors réservée à la liturgie. Et pour découvrir la lyrique des Trouvères, nous avons avec nous dans le studio Xavier Terrassa, qui est le spécialiste de la lecture des sources et du contrepoint médiéval, qui va vous parler donc de cette lyrique. Et vous allez voir à travers les pièces qu'il va nous faire écouter que c'est une musique très joyeuse. Bienvenue dans notre studio.
Bonjour, merci. Bonjour. Moi, je suis spécialiste, donc je suis musicien spécialisé effectivement dans la lecture des sources. Il y a des vrais spécialistes qui sont musicologues. Et je profite évidemment de leur travail régulier.
Vous êtes un musicien, vous avez fondé plusieurs ensembles et vous jouez toujours régulièrement avec Obsidienne, voilà, Amadis comme... et Jouer. Voilà. Jouer qui veut dire joie, c'est cela ?
Qui veut dire jouer, s'amuser, oui, effectivement. Donc ça joue un peu sur le jeu de mots, enfin sur l'acception moderne qui est de jouer aussi de la musique. Voilà. Donc ça, c'est une bande ménétrière, les musiciens professionnels du Moyen-Âge.
Et pour montrer que vous êtes un praticien de la musique, il est peut-être bien de rappeler que vous organisez régulièrement à Chartres, avec l'instrumentarium de Chartres, ces copies des instruments du Moyen-Âge, des concerts destinés à des scolaires, et vous avez reçu, je pense, des centaines de scolaires qui, grâce à vous, ont pu découvrir la musique du Moyen-Âge. Donc parlez-nous de la lyrique des Trouvères. Qui sont les Trouvères ?
Voilà, donc la période des Trouvères, donc vous avez parlé effectivement du XIIIe siècle, ça dure à peu près 150 ans, ça suit directement et de très près vers les années 1170, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIIe siècle, la lyrique troubadour. Donc les troubadours, ce sont ceux qui vont composer ces poèmes en langue dite vernaculaire, c'est-à-dire dans un dialecte, en tout cas qui n'est pas du latin, et qui vont donc composer à la fois ces poésies tout d'abord, et puis donc écrire ces poésies et composer la musique qui est associée très souvent.
Voilà. Vous les avez appelés les poètes aristocrates, parce qu'on trouve parmi les troubadours effectivement des comtes et des personnes de l'aristocratie qui s'adonnaient à la musique.
Oui, tout à fait. Le premier troubadour connu, hein, parce qu'il faut rappeler que nous sommes sur des matériaux historiques, donc évidemment on ne peut parler que de ce dont on a la... de ce dont on... pour lequel on a une source, et donc du coup, effectivement, le premier qui soit connu, c'est Guillaume IX d'Aquitaine, qui est effectivement un roi. Et chez les Trouvères, on va avoir également des gens de différentes extractions. Il y a des rois, comme par exemple Richard Cœur de Lion, le roi Thibaut de Champagne. Et puis il y a donc des princes, des bourgeois. Il y en a qui sont simples jongleurs, hein, pour certains. Voilà, donc de différentes conditions. Et qui vont donc reprendre cette idée. Alors, il y a évidemment plusieurs hypothèses qui expliquent comment cet art, mais on sait qu'au Moyen-Âge, on voyageait quand même beaucoup, qui était en Languedoc, donc pour le sud de la France, et puis qui s'est répandu hein, dans l'Europe, devient en langue d'oïl, ce qui va donner notre français moderne, donc à la fin du XIIe siècle. Et ils vont reprendre les formes réalisées par les troubadours, et puis ils vont faire aussi petit à petit leur propre style, et eux vont y associer la polyphonie, mais ça on va y venir. Alors je vous propose peut-être en préambule d'écouter une chanson d'un trouvère qui s'appelle « Gaz brûlé », et la chanson c'est « Langue que vouait l'herbe resplendre ».
Thank you.
Donc là, on a écouté une musique qui est très rentrée, très portée par l'intériorisation des sentiments, j'imagine, qu'ils ont exprimés à travers le texte. Est-ce qu'on connaît... Vous avez la traduction, peut-être, du texte chanté ?
Alors là, non, je n'ai pas la chanson là. Mm-hmm. L'an que vouait l'herbe resplendre, mm-hmm. donc cette année où je vois l'herbe... on va dire resplendir, quoi. Mmh. Donc c'est peut-être associé, ça je ne la connais pas, celle-là, il faudrait étudier le texte, mais à une reverdie qui est l'un des styles utilisés très couramment par les troubadours et les trouvères. Alors ça pose justement la question des styles différents et puis de l'interprétation, donc on peut peut-être parler des styles différents. Effectivement, le trouvère, c'est aussi accaparé cette idée qui a été inventée par les troubadours, qui s'appelle la fine amour, donc qui est cette... cet amour idéalisé, je rappelle que c'est les troubadours qui inventent l'amour, justement.
L'amour courtois.
Exactement, on parle d'amour courtois. Et là, justement, ce qu'on entend se rapproche plutôt de ce qu'on appelle le grand chant courtois, et donc qui est une poésie et puis une musique très, enfin pas solennelle, mais justement très, très haute et très, très intérieure. Et puis, à côté de ça, il y a toutes les comment dire les catégories de poésie qui sont absolument différentes, plus populaires, on va appeler ça comme ça. Il y a des chansons à danser, il y a donc les reverdis, il y a des sottes chansons, etc. Il y a des pastourelles où c'est toujours l'histoire d'un chevalier qui croise une jeune fille et puis il aimerait bien, mais elle, etc., etc. Enfin voilà. Donc il y a des styles comme ça dans la poésie qui font qu'évidemment selon le sujet, on ne l'interprétera pas différemment. Après vient se poser le problème de l'interprétation. Donc je rappelle qu'évidemment, on ne sait pas comment ils chantaient à l'époque. On a très peu d'idées sur les instruments qui étaient utilisés, par exemple. Donc c'est l'un des travaux à Chartres autour de la reconstitution des instruments. Et puis après, le problème des sources. Et donc les sources, les trouvères, c'est près de 2000 chansons qu'on a retrouvées. Hein. C'est environ 230 trouvères dont on a les noms, mais parfois on a les noms juste pour une chanson. Certains autres trouvères, on les connaît pour une centaine de chansons, comme Adam de la Halle, hein, qui est à la fin du XIIIe siècle, on en reparlera tout à l'heure. Et en tout cas, toutes ces chansons sont notées, alors pour la plupart, dans ce qu'on appelle les chansonniers, donc ont été réalisées au XIIIe, seconde moitié XIIIe et puis XIVe siècle, pour compiler toutes ces chansons.
Les collections de chants, de trouvères qui étaient collectionnés.
Absolument.
Par qui ?
Alors ça, c'est toute la difficulté. Il y en a qui ont des théories là-dessus, mais pourquoi on fait des chansonniers ? Ben, c'est toute la question, de savoir pourquoi on note la musique à cette époque-là, pourquoi on fait un manuscrit.
Parce que c'est de la musique exclusivement profane.
Ah, c'est de la musique profane, oui, tout à fait, mais il faut savoir que toute la musique profane a de plus en plus d'intérêt. Hein. Les gens s'accaparent la musique, la culture hein, en général, et avoir un manuscrit, c'est quelque chose de très précieux. Et donc on trouve les textes et on trouve parfois la musique. La musique est notée, alors qu'on sait noter le rythme à cette époque-là, tout du moins en partie, eh bien on a une notation qui est une notation dite grégorienne, c'est-à-dire qui marque les hauteurs de notes, mais qui ne marque pas le rythme. Voilà, donc là, ça veut dire que pour l'interprétation, indépendamment de savoir déjà comment prononcer, etc., des rythmes et tout, enfin de la vitesse ou pas, eh bien, ça pose aussi la question de la rythmique.
J'avais encore une autre question concernant les noms des trouvères. Est-ce que les trouvères signaient leur texte ou est-ce qu'on sait que tel trouvère a composé telle chanson parce que les textes en parlent ou les trouvères vont laisser leur nom sur les manuscrits ?
Alors, eux ne laissent pas leur nom parce qu'on n'a pas d'exemple. Alors, on n'a pas d'exemple de manuscrits qui aient été écrits sous la dictée d'un trouvère. Le seul pour lequel on ait la certitude, c'est Guillaume de Machaut, mais on est déjà à la moitié du XIVe siècle, qui est considéré comme le dernier des trouvères, et qui, lui, a fait effectivement compiler, dans l'ordre chronologique, toutes, ou en tout cas les pièces qu'il estimait devoir compiler, et le premier manuscrit, qui est ce qu'on appelle le Machaut A, qui est la Bibliothèque nationale de France, eh bien, lui, effectivement, est rédigé sous sa supervision. Mmh. Sous dictée, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et donc, après, il y a certains manuscrits dont On parlait de Gaz Brûlé, par exemple, tout à l'heure, et bien, dont on a écouté un morceau. Lui, on sait que la chanson qui a été, certaines chansons qui ont été compilées, et bien, il était en vie au moment où ça a été compilé. Maintenant, voilà. On n'a pas de certitude, on n'a pas de traces qui disent que tel trouvère a fait écrire ses chansons. Et puis, il faut savoir que le moyen de communication pour ces trouvères, eh bien, ce sont les jongleurs. Et donc, ça veut dire que c'est sujet, évidemment, à modification. C'est-à-dire, un jongleur apprend la pièce, et puis va la porter autre part, et puis elle peut être modifiée, etc. Et le script lui-même peut la modifier en l'écrivant. Donc du coup, lorsqu'on a plusieurs, ce qu'on appelle les concordances, c'est-à-dire plusieurs manuscrits qui nous donnent la même chanson, ça permet de comparer, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des différences importantes parfois, non seulement dans la mélodie, mais aussi dans l'orthographe, hein, qui n'est pas fixée à l'époque. Et puis parfois, on n'a qu'une seule pièce, et donc voilà, avec ça, ben, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc là, on a écouté tout à l'heure une version d'Alla Francesca. Je vous propose d'écouter un motet, puisque c'est une autre particularité, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, le musicien qui est à la fois qui a fait son éducation musicale auprès des clercs, donc il connaît très très bien la musique liturgique et qui en compose certainement aussi, eh bien va s'adonner de plus en plus à la polyphonie. Voilà. Et là, je vais vous faire écouter une pièce qui a été écrite dans la seconde moitié du XIIIe siècle, qui est attribuée à Pierre de la Croix. Et Pierre de la Croix est connu en musicologie parce qu'il a inventé le point dans la notation musicale. Et entre chaque point, eh bien, on décide de mettre un certain nombre de notes. Et vous allez voir que là, c'est un motet, c'est-à-dire donc un motet à trois voix. Trois voix qui ont des textes chacun différents. Donc on est vraiment dans la polyphonie. Et vous entendrez ce qu'on appelle le triplum, c'est-à-dire la voix supérieure qui, elle, a beaucoup, beaucoup de notes à faire et beaucoup de syllabes à prononcer. Donc je vous fais écouter ce motet qui s'appelle « Aucun en trouvé ».
Alors cette musique est encore très imprégnée, a-t-on l'impression, par la musique liturgique?
Ah oui, c'est au-delà de l'impression, c'est confirmé, effectivement. Hein. Je rappelle que tout le monde est issu des mêmes centres de formation, hein, qui sont...
Les écoles des chantres dans les cathédrales ou...
Oui, les écoles des chantres sont des clercs, ils étudient auprès des moines, etc. Alors là-dessus, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de précisions, on a très peu d'informations sur les trouvères. Pour les troubadours, on avait ce qu'on appelle les vidas, alors qui sont réalisés au XIIIe siècle, donc après la disparition des troubadours. Mais pour les trouvères, alors parfois on a quelques informations, mais sinon c'est souvent de l'ordre de la supposition, quoi.
Oui, il faut rappeler que les chantres dans les cathédrales n'étaient pas forcément des clercs, c'était pas des gens, personne ne consacré, donc ils pouvaient effectivement quitter sans problème après avoir fait les études de musique.
Oui, tout à fait.
À l'endroit où ils avaient appris.
Et puis on participe à cette tendance qui fera que, surtout au XIVe siècle, le musicien se détache de l'aspect spéculatif, puisque je rappelle que la musique au Moyen-Âge, c'est quand même le son de l'univers, hein, c'est la façon d'entendre donc l'harmonie des sphères, et qu'on pense, c'est toujours les théories pythagoriciennes, que grâce à la musique et grâce à la loi des nombres, on peut expliquer le monde, on peut expliquer l'univers. Donc c'est pas du tout anodin, quoi, la musique est loin d'être anodine. Et le fait de s'émanciper petit à petit justement des contingences liturgiques, il y en a qui se sont élevés contre ça, effectivement. Donc on a des écrits où on estime que ça n'est pas normal. Il faut savoir que les troubadours ou les trouvères se faisaient condamner parfois, parce qu'à la fois il y a quelque chose de pour la première fois avec les trouvères, et on continue avec les troubadours quand même, sont des gens qui écrivent des poèmes à la première personne du singulier. Ils disent « je ». Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, en fait, même dans la poésie latine avant, ou en tout cas très rarement. Tandis que là, c'est vraiment... Et ils parlent vraiment de leurs émotions, et puis parfois plus. Hein, je vous parlais des pastorelles, ça peut être très grivois, quoi. Donc on s'amuse avec la musique... On en joue, on en profite, voilà, on a une société du XIIIe siècle, effectivement, qui s'adonne aux arts, visiblement. On fait des puits, par exemple, de trouvères, où on nomme, notamment dans le Nord, où on nomme le prince des trouvères. Par exemple. Donc il y a toute une stimulation et puis...
Il y a des concours comme les Meisterzänger qui se rassemblent tous et on va élire...
Voilà, exactement. Mmh. Bah, c'est juste avant, hein, puisque les Meisterzänger, c'est 14e. Ça existait peut-être avec les Minnesänger, donc qui sont l'équivalent des troubadours et des trouvères, mais... Dans les pays de langue germanique, pardon.
Donc ce ne sont plus des joutes des chevaliers, ce sont des joutes de musiciens,
exactement,
de chanteurs.
Oui, ben c'est quand
compétition. Finalement, le prix de l'Eurovision existait bien avant.
Ce sont des radio-crochets, on pourrait appeler ça comme ça, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça, oui. Non, tout à fait, il y a d'ailleurs on trouve ce qu'on appelle des jeux partis dans les styles musicaux, qui sont écrits, en tout cas c'est noté comme ça dans les manuscrits, qui sont écrits par deux trouvères et l'un répond à l'autre, et ça existait déjà chez les troubadours. Donc l'un dit par exemple j'adore la vie, le soleil c'est super, je suis amoureux, et l'autre il dit moi j'aime que le froid, elle est partie, je suis triste, etc. Et l'un répond et etc. Et parfois c'est voilà, et c'est enfin c'est
un véritable duel, mais
oui, voilà, un duel de mots, ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on appellerait du slam, hein. Vous voyez, quand on parle de slam, c'est déjà dans la tradition, c'est la tradition trouvère. Alors j'en profite, hein, pour dire que ces chansons de troubadour, de trouvère, ont vraiment posé les bases de ce qu'est notre culture aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois de chansons avec l'apparition du refrain. Ça on le voit de plus en plus chez les trouvères, ça existait chez les troubadours, et donc si vous voulez, aujourd'hui quand vous écoutez une chanson pop, variété, ce que vous voulez, vous êtes toujours dans une forme de modalité, c'est-à-dire succession des notes, et dans une forme d'organisation de la chanson, de structuration, et puis aussi pour ce qui concerne le texte, on est toujours sur les bases de ce 12e, 13e siècle. Donc voilà, c'est une filiation directe, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de chansons qui s'adressaient plus au peuple, parce que cette musique que nous avons entendue, elle est tellement intériorisée qu'on la ressent comme plutôt aristocratique. Et on a du mal à croire que le peuple puisse se limiter à des mélodies aussi calmes. Oui. Le peuple a souvent besoin de laisser éclater sa joie, donc j'imagine que c'est une musique qui sera beaucoup plus rythmée.
Oui, tout à fait. Et puis associé aux danses, donc on va écouter effectivement dans, voilà, dans quelques secondes « Fille Marie de votre amour ». Une chanson d'Adam Lahal, c'est un rondo à trois voix, donc en polyphonie, mais par contre c'est un rondo, donc c'est une danse, et qui dit « Fille Marie », c'est-à-dire « Allez mon mari », enfin en gros j'en ai rien à foutre, hein, ça veut dire ça, « Fille Marie de votre amour, j'en ai que faire de votre amour, car j'ai un ami, j'ai un amant ». Voilà, donc là effectivement c'est très irrévérencieux. Maintenant sur les sources populaires, c'est toujours le problème de la notation, c'est que on ne note pas le peuple. On note ce qui est proche de la descriptorier, c'est-à-dire on note ce qu'il y a de la valeur, et visiblement ce qu'il y a de la valeur, c'est pas l'art populaire. Donc on a toujours ce problème d'essayer d'imaginer. Déjà on a du mal sur l'art aristocratique, hein, que représentent les trouvères, et donc sur les activités artistiques populaires, malheureusement c'est encore plus loin de nous, quoi. Donc je vous propose d'écouter Adam de Lahal, la fin du XIIIe siècle, un trouvère d'Arras.
Fille Marie de votre amour, car j'ai ami, Dieu et de noble tour. Fille Marie de votre amour, il me sert de nuit et jour pour chelem si. Fille Marie de votre amour, car j'ai ami.
Effectivement, cette musique nous entraîne, on a envie de danser, rien que de l'écouter.
Voilà, oui, tout à fait.
Alors, Xavier Terrassa, vous nous avez fait découvrir la lyrique des Trouvères, et je serais très heureuse si vous pouviez, peut-être pour terminer l'émission, nous faire écouter encore une pièce des Trouvères.
Oui, tout à fait. Bien, on va vous faire écouter. Alors, j'ai cité Guillaume de Machaut pour le XIVe siècle, mais un trouvère qui est à l'orée du XIIIe et du XIVe siècle, qui s'appelle Jean de l'Escurel, et qui va nous. Enfin, là, on va vous faire écouter par l'ensemble Amadis. La chanteuse, c'est Catherine Jousselin.
Dans lequel vous participez.
Voilà, voilà. Oui. Oui. J'ai des actions, oui. Non, effectivement, je joue et je chante.
Action musicale.
Et c'est une ballade avec deux L, donc une forme musicale, qui s'appelle « Amour que vous ai méfait ».
Merci beaucoup, Xavier Terrassa.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
À très bientôt.